Nous allons aujourd'hui nous attaquer, si je puis dire, à l'une des parties les plus polémiques de l'épître de Jacques. Alors, si je dis que cette partie est polémique, c'est parce qu'à première lecture, celle-ci ne semble pas briller par sa nuance vis-à-vis des riches. Et avant que vous écriez tous intérieurement « Merci Seigneur, ça ne va pas me concerner ce message parce que je ne suis pas riche », on se calme. Ça va peut-être plus nous parler que vous ne pensez. On va prendre le texte, chapitre 5 de l'évangile de Jacques. Chemin faisant, on arrive au bout quand même. Hein? Certains diront « Il est temps, parce que les bleus intérieurs, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai. Hein? » Prenons le texte. Donc, « À vous maintenant, les riches, donc à vous, c'est votre tour maintenant. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Ça commence bien. « Vos richesses sont pourries et vos vêtements, sont rongés par les mites. » Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. C'est un des textes de l'Écriture. Quand moi je lis ça, j'ai qu'une envie, c'est, comment dirais-je, me taire. Parce que, qu'est-ce qu'on peut encore commenter après ça? Mais je suis quand même un peu là pour ça. Donc Seigneur, pardonne-moi d'avance. Gardez en chemin faisant quand même en arrière-plan cette notion de dépouillement dont j'ai un peu parlé au début du culte, hein, c'est important. Alors comme à son habitude, vous aurez remarqué, Jacques n'y va pas de main morte. Mais avant de m'arrêter sur le passage en lui-même, j'aimerais quand même faire rapidement quelques remarques plus générales. Ça va nous prendre deux messages, cette portion, hein, donc je vous préviens déjà. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'à l'époque de Jacques, même si le temple et les synagogues étaient supposés prendre en charge certains pauvres, les veuves en particulier, et on comprend pourquoi, la justice sociale et l'aide aux plus démunis dépendaient grandement de la générosité des nantis, ne fût-ce qu'indirectement de par les dons qu'ils faisaient à ces institutions mêmes. Et même si, à côté de cela, la solidarité entre pauvres pouvait aussi exister, ainsi que celle plus naturelle sans doute entre les membres pauvres d'une même famille. Tout ça, ça existait aussi à l'époque, et Dieu merci. Alors je pense malgré tout que nous avons du mal à véritablement imaginer tout ça de nos jours. Puisque depuis longtemps, dans nos sociétés dites démocratiques, c'est plus ou moins à l'État que revient la charge et la responsabilité de venir en aide aux plus faibles et aux plus fragiles d'entre nous. Au travers de différents organismes sociaux, que nous finançons par nos impôts. Merci Seigneur pour les impôts. C'est moi qui ai dit ça? Mais cela nous évite tout de même un peu de devoir regarder la misère dans le blanc des yeux, me semble-t-il, puisque nous ne sommes plus vraiment au quotidien en contact avec cette misère. Il n'en demeure pas moins vrai que la solidarité et l'équité dans ces matières peuvent être diversement interprétées et donc susciter des questions. C'est une question que je pose, hein, je n'ai pas les réponses spécialement. Hein. Est-il juste, par exemple, en ces temps d'augmentation apocalyptique des prix de l'énergie, ça ne vous aura pas échappé, et si ça vous a échappé, attendez la facture suivante, et la remise à niveau. Est-il juste que nous recevions tous la même aide en ne tenant aucun compte de nos revenus et de nos avoirs, parce que c'est un peu ce qui va se passer, hein. Mis à part, bien entendu, les tarifs sociaux préférentiels dont bénéficient les plus bas revenus, ce qui est tout à fait normal. Donc, l'État remplit-il bien son rôle d'arbitre entre les plus riches et les plus pauvres, puisque c'est lui qui pourvoit à l'aide envers les plus démunis? La collusion entre les nantis et le pouvoir politique a de tout temps existé. C'était vraiment le cas au temps de Jacques. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, malgré tout. Et nous sommes bien heureux, croyez-moi, de ne pas vivre au temps de Jacques à ce niveau-là, parce que c'était bien pire. Mais la question mérite d'être posée, surtout à la lumière de ce que Jacques nous dit des riches et de leur façon de fonctionner. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la nuance, ce qu'il dit sur les riches. Une autre question mérite aussi, à mon sens, d'être posée. Les plus fragiles d'entre nous doivent-ils le rester toute leur vie durant, sans que rien ne leur soit jamais proposé, jamais demandé? Est-ce que ça peut devenir un statut social, véritablement? Je parle d'entre cadres à nous. À l'époque, vous êtes veuve, vous faites perdre votre mari, le soutien financier de votre famille, vous êtes totalement démunis, il n'y a aucun filet social, rien. Mais aujourd'hui, est-ce que la solution revient simplement à donner tous les mois quelque chose et dire, voilà, tu tires ton plan avec ça, le reste du temps, tu vas rester ce que tu as toujours été, indépendant, un assisté, quelqu'un qui n'aura aucune perspective de vie autre que celle-là. Est-ce que c'est juste de faire comme ça? Et surtout, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que la valeur intrinsèque de l'individu n'est pas plus importante, plus profonde, plus importante que ça à ses yeux à lui? Quelle est donc encore la place de la responsabilité individuelle dans ces matières sociales? Est-il normal que quelqu'un reste toute sa vie durant, par exemple, en burn-out professionnel? Ça existe, hein? Mais 5 ans, 10 ans, je n'invente rien, 15 ans, toute une vie. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un accompagnement pour réinjecter ces personnes dans la vie active, afin justement qu'elles récupèrent leur dignité, leur vie, le sentiment profond d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un? Est-il normal, c'est aussi financé par les impôts, hein, est-il normal que l'on aide davantage les femmes seules parce qu'elles doivent élever seules leurs enfants, alors que le choix de leur conjoint et le nombre d'enfants qu'elles ont eus relève de leur responsabilité personnelle? Je ne sais pas si vous le savez, parce qu'il faut, à un moment, il faut réfléchir. Enfin, peut-être que je réfléchis trop, hein, mais je ne sais pas si vous le savez, mais la modification du code civil qui fait que les femmes, maintenant, en cas de divorce, sont responsables, on leur donne les enfants, la responsabilité des enfants. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Parce que dans le code civil, à un moment, on a dit on va supprimer cette mention du pouvoir paternel et on va mettre le couple à la place. C'est ce qu'on a fait. Par principe d'égalité. Et on peut comprendre, et je ne suis pas contre le principe. Seulement, dans les faits, il s'est passé quoi? C'est qu'en cas de divorce, maintenant, ce n'est plus le père qui a la charge des enfants. C'est la mère. Sous le prétexte fallacieux, même s'il n'est pas dans le texte du code, que la maman aurait l'instinct maternel, ce qui est un vestige darwinisme, une erreur énorme. La construction parentale est une construction psychique, psychologique et sociale. On n'a pas ça en nous. Il y a des mamans qui accouchent et qui n'aiment pas leur enfant. Elles sont accompagnées aujourd'hui, merci Seigneur. On a enfin compris que ça n'était pas quelque chose d'automatique. Mais dans la réalité des faits, les femmes maintenant, après divorce, qui ont plusieurs enfants, elles ont un salaire pour faire fonctionner la famille. Le père, vu l'état des loyers, même s'il veut participer, il ne peut plus. Il ne peut plus. Alors, il y a un autre organisme maintenant qui se charge de récupérer les créances paternelles non payées. Donc, ce n'est plus la maman à s'occuper de ça. La maman, elle a ce que la loi a prévu qu'elle ait au niveau de ses enfants. Ce n'est plus à la maman de courir derrière l'argent quand il y a un statut reconnu. Mais derrière, encore une fois, quelle est la part que l'on donne ou que l'on laisse à la responsabilité personnelle? Il n'y a plus. Tout ça est dissous dans une sorte de tissu social égalitaire. Je termine sur ce petit sujet que je viens d'aborder. Je ne suis pas sûr, ça n'existait pas à l'époque, que si le papa en était encore là, si le père est seul avec ses enfants à charge, je ne suis pas sûr qu'on aurait voté une loi pour aider le père seul avec ses enfants. Parce que la notion de fragilité rentre en ligne de compte, quand ça arrange. Alors que, dans les faits, un père seul avec ses enfants, il a autant de problèmes au niveau du debout en fin de mois qu'une maman, me semble-t-il. Donc, il faut se méfier, je pense, hein, de certaines victoires idéologiques perpétrées sur des champs de bataille sociétaux, car elles traînent derrière elles bien des conséquences, comme les fourgons de blessés et de morts de certaines batailles du passé, mais qu'on ne comptabilise jamais lorsqu'on célèbre les dites victoires, les avancées égalitaires notoires. Est-il normal de rester toute sa vie un demandeur d'emploi? J'en connais qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Est-ce qu'il faut souhaiter ça à quelqu'un? Vous souhaitez ça à vos enfants, vous? Je ne sais pas, hein, je pose la question. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, mais toute ta vie, ou des années. Donc sur cette question aussi, c'est pour ça que j'en parle, hein, vous aurez compris, question ne concernant donc pas les riches, la parole de Dieu a beaucoup de choses à dire. Les apôtres et notre Seigneur lui-même auraient été étonnés de ce que l'on pouvait être payé à ne rien faire, par exemple. Ils auraient été très étonnés. Pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, si on ne travaillait pas, on ne mangeait pas non plus. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il y en a certains qui avaient arrêté de travailler parce qu'ils attendaient le retour de Jésus tout de suite. Il dit, moi j'arrête de travailler, il va revenir. Et Paul dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Le retour, tu ne sais pas quand il se fera. Et si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Si tu as tout ce qu'il faut pour travailler et que tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Là encore, quelle chance que de nos jours que les filets de sécurité sociale existent. Mais, vous savez, je ne suis pas prophète, mais j'ai prévu ça. Pour combien de temps encore? Et je ne vous parlerai pas pour être taquin du fait qu'on va vers une sixième réforme de l'État. Je n'en parlerai pas. Et que nous sommes en Wallonie et pas en Flandre. Voilà. Alors, du temps de Jacques, revenons au temps de Jacques, ces personnes assistées n'existaient pas vraiment, je l'ai dit. Mis à part donc les veuves et les orphelins qui, après la mort du chef de famille, se retrouvaient vraiment, mais vraiment démunis. Pour les veuves, si celles-ci étaient âgées, je parle pour l'Église, hors Église, dans la société juive, c'était normalement le temple à Jérusalem, en tout cas quand vous étiez à Jérusalem, vous y viviez, ou les synagogues dans les patelins plus éloignés qui étaient supposés prendre en charge les veuves, mais ils ne le faisaient pas toujours non plus. Donc, en ce qui concerne l'Église, pour les veuves les plus démunies, il fallait qu'elles soient âgées pour que l'Église les soutienne. Il fallait qu'elles soient âgées et qu'elles aient courageusement servi l'Église. Et dans ce cas-là, elles étaient enregistrées sur une liste et l'Église les prenait en charge. Alors, précisons quand même les exigences. Et c'est Paul qui parle. Pour comprendre... qu'on prenne conscience de l'écart avec aujourd'hui. Pour être inscrite sur la liste, il écrit ça à Timothée, hein, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Moins de 60 ans. Espérance de vie dans l'Antiquité, 35. Je passe les détails. Il explique que les jeunes veuves n'ont qu'à se remarier et que le nouveau mari prenne soin d'elle. C'est un peu l'articulation. Hein. Et aussi qu'elle ne reste pas à rien faire, dira Paul, les jeunes. Les jeunes chrétiennes, veuves chrétiennes, qui dit, apparemment, ça, il parle d'expérience, là, Timothée est à Éphèse, il y a des problèmes à Éphèse, en particulier avec les femmes, de là certains textes restrictifs dans certaines épîtres. Et que se passe-t-il? C'est que ces jeunes veuves se promènent de maison en maison parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire et elles débitent, excusez-moi l'expression, des âneries spirituellement. Et Paul dit qu'elles se remarient et qu'elles fassent quelque chose d'utile, quoi. Mais ne les prenez pas en charge, hein, c'est ce qu'il dit. 60 ans, elles ne peuvent pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit, bon ça c'est déjà bien, hein, mais qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait mouillé son maillot si vous préférez, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Si elle répond à ces critères, vous la prenez en charge. Si pas, c'est non. On demande un feedback quand même, on ne va pas soutenir tout le monde, mais c'est intéressant quand même. Tout le monde, intérieurement, je vois bien sur le visage, « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Oui, mais ça équilibre un peu la balance. Hein. Alors l'Évangile ne le dit pas explicitement, mais nous savons que Joseph, le père adoptif de Jésus, est mort probablement quelques années avant le début du ministère public de Jésus. À un moment, on ne parle plus de Joseph, hein. Il a disparu, Joseph. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? parce qu'il est mort. Et on dit, bah oui, il est mort. Oui, mais Marie, il se passe quoi à ce moment-là? Elle est veuve. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la Bible dit, la famille de Jésus peut être considérée comme une famille nombreuse. En effet, l'évangile de Matthieu nous dit que Jésus avait quatre frères. Jacques, notre cher Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et au moins deux sœurs. Je dis ça parce que Matthieu dit, cite les quatre noms des garçons, ne cite pas le nom des sœurs, parce que pour les juifs, ça ne se faisait pas de citer le nom des femmes. Mais il dit donc, ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Il cite les quatre frères, et puis il dit, et ses sœurs. C'est un pluriel donc, c'est au minimum deux. Hein. Mais il y en a peut-être trois, quatre, on n'en sait rien. Ce qui fait que Jésus comprit, ils étaient au minimum sept. Sept enfants à la maison. Et le père décède. Le père décédé, c'est donc Jésus qui a dû assumer le rôle échu à l'aîné, au premier-né, subvenir aux besoins de sa famille. Il devient le chef de famille, parce que Jésus est l'aîné de la famille. Pas seulement de la famille de Dieu, de sa famille, entre guillemets, terrestre aussi. Jésus a donc dû travailler dur pour nourrir sa famille avant de se lancer dans le ministère. Quant au métier qu'il a exercé, il n'est pas douteux que ce fût celui de charpentier, puisque son père terrestre l'était. Ce qui confirme bien cet adage que l'on trouve dans le Talmud, le commentaire juif de la loi de Moïse, « Celui qui n'apprend pas un métier à son fils le pousse à devenir un voleur. » Joseph a donc appris son métier de charpentier à son fils Jésus. Quelle chance! Quand cela était possible, c'était donc les familles qui prenaient en charge les membres de leur propre famille. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ce qui fait réfléchir là aussi sur le soin, vous aurez eu la dose aujourd'hui, hein, sur le soin que nous prenons des membres de notre famille, à commencer par nos parents. Je ne suis pas fier sur ce coup-là non plus, je vous le dis. Hein. De moi, hein, j'entends. Les différents scandales qui éclatent pour l'instant dans certaines maisons dites de repos sont éclairants sur ce que nous sommes devenus en tant que société et civilisation. C'est ce que nous sommes devenus, la façon dont on traite les aînés. Il est en tout cas évident qu'au premier siècle de notre ère, bien peu de pères auraient laissé leurs fils végéter et passer leur temps à ne rien faire, pas plus qu'on ne se serait débarrassé de ses aînés en comptant sur d'autres, pour s'en occuper mieux et les aimer plus que leurs propres enfants, sous prétexte que ces autres-là sont payés pour ça. Donc à part quelques pharisiens, à qui Jésus a justement reproché leur attitude et leur négligence vis-à-vis de leurs parents, le mot d'ordre était qu'il fallait se serrer les coudes et se venir en aide au sein d'une même famille, au sein même d'une même communauté. Alors on lit parfois certains passages, je l'ai dit, des évangiles avec une telle distance théologique, parce qu'on fait de la théologie, qu'on en vient à passer sous silence les réalités sociales que ces textes que nous lisons sous-tendent. Il y a des réalités sociales. Pour un exemple, à deux reprises au moins, mais ça dit quelque chose de leur métier, à deux reprises au moins, les pêcheurs, qui étaient Pierre, André, Jacques et Jean, rentrent bredouilles de toute une nuit de pêche. Donc toute une nuit à pêcher et ils prennent rien. Il y a au moins deux fois dans l'évangile où c'est dit explicitement. Alors, mais oui, mais ça veut dire quoi, indépendamment que Jésus vient jeter vos filets à... Ok, magnifique, hein, pêche miraculeuse. Mais ça signifie quoi, pratiquement, pour ces pêcheurs qui ont des familles? Alors vous allez me dire, oui, Pierre a une femme. Oui, mais les autres, ils ont une famille, ils ont un père, voilà, ce sont des petites entreprises, d'accord? Et comme on prend soin de ses parents jusqu'à leur mort, il faut que l'argent rentre. Donc ça signifie, je ne prends rien, ben, déjà, je ne fais pas manger ma famille puisque je ne prends pas de poisson. Ça, c'est le premier niveau. Et puis surtout, je n'aurai pas de poisson à vendre sur les marchés autour du lac de Galilée. Autrement dit, ma famille va passer par des temps difficiles, puisque je n'ai rien pris. Moment difficile rendu encore bien pire, vu la, j'en ai déjà parlé à d'autres moments, mais vu la charge taxative en place à l'époque. Je rappelle que les Juifs payaient des taxes pour l'entretien et l'embellissement du temple et pour différentes autres choses que la loi de Moïse prévoyait, ainsi que des taxes aux occupants romains pour l'entretien des infrastructures, certaines constructions, ainsi que pour les terres et les récoltes, sans oublier celles sur les denrées commerciales, le blé, le vin, l'huile, etc. On ne pouvait pas entrer dans une ville en Judée, en Samarie ou en Galilée, surtout en Galilée, parce que les voies d'accès principales venaient de là. On ne pouvait pas entrer en main dans un village sans payer une taxe sur ce qu'on y amenait. C'est ça la réalité sociale. Et je passe aussi le fait qu'à un moment, les disciples de Jésus disent à leur famille, « Ciao bello, moi je suis le maître. Hein. Mettez-vous à la place du père de Jean et Jacques. Vous faites quoi ?»« Ah oh, mais le rabbi de Nazareth, nous on le suit, quoi. Et nous ? On devient quoi, nous ?» Comprenez ? Là aussi, il faut comprendre l'impact sociologique et familial qu'a eu le ministère de Jésus. C'est pour ça qu'on peut comprendre que, ça n'excuse rien, mais que même des Juifs de basse extraction, dans certains villages, ils n'étaient pas trop d'accord avec Jésus. Parce qu'il a vidé en partie les sources fortes et vives qui alimentaient le secours dans les familles. Ceux qui avaient des bras pour travailler. Pour en venir aux disciples de Jésus, qui exerçaient donc le métier de pêcheur, qu'on prenne du poisson ou pas, il fallait encore démêler le filet pendant des heures. Merci Seigneur, tu m'as pas fait de moi un pêcheur, parce qu'avec ma patience, le filet, je ne vous dis pas où il aurait volé. Il fallait entretenir les barques, enfin, etc. Puis quand on lit par exemple la parabole du fils prodigue, que vous connaissez tous, au-delà de son sens sotériologique, autrement dit, qu'est-ce que ça me dit au niveau du salut et du cœur de Dieu ? Cette parabole dit aussi quelque chose des mœurs et des coutumes de l'époque. Rappelez-vous, le père de la parabole, bon, on sait que c'est Dieu, bien sûr, mais le père de la parabole, il a du bien, c'est un nanti, il a des terrains, il a des ouvriers, il a des employés, c'est un riche. Ce qui n'empêche pas son fils aîné de travailler dur. C'est ce qu'elle dit là. Il dit, j'ai travaillé comme un âne pour toi. Alors, il a travaillé avec un mauvais état d'esprit, pour de mauvaises raisons, mais tout de même, même s'il doit hériter de tout, il bosse le fils aîné. Il ne reste pas à rien faire. Par contre, le plus jeune, vous le savez, des deux fils, lui choisit l'oisiveté, l'insouciance, et se dit que ce serait bien de ne rien faire, de profiter du travail des autres, de tous ces autres qui travaillent sur le domaine de son père, et de lui demander dès à présent sa part d'héritage, comme s'il y avait droit, alors que son père n'est même pas encore mort. Jamais rien fait de ses 10 doigts, le fils cadet, mais il veut cette une, quoi. Non, mais si je dis tout ça, c'est parce que ça cale à ce qu'on est en train de dire, mais c'est d'abord ça qu'ils ont entendu, les auditeurs de la parabole. Ils n'ont pas identifié le père comme Dieu. Ils ont entendu cette situation de famille invraisemblable, impossible pour l'époque. Donc, si cette parabole a dû être considérée comme scandaleuse aux auditeurs de l'époque, c'est d'abord pour ces raisons-là. L'effroyable oisiveté et la non moins abominable effronterie du fils cadet et la faiblesse apparente du père qui lui donne ses sous et qui le voit, qui le regarde s'en aller. Donc, pas étonnant que tous les auditeurs présents ce jour-là, indépendamment du sens profond de la parabole qui nous parle du pardon inconditionnel de Dieu, pas étonnant que tous ces auditeurs aient choisi de se voir dans le fils aîné de la parabole, ce qui est une bonne chose, et c'est exactement ça que Jésus visait, puisqu'ils étaient tous juifs, et que le fils aîné dans cette parabole, c'est Israël, qui sert légalement et servilement pour obtenir son héritage. Mais c'est scandaleux, cette parabole, pour les oreilles juives. Et on aurait été scandalisés aussi à l'époque, d'entendre ça. C'était le but, hein. Jésus, il aimait bien secouer le prunier. Il faut toujours s'identifier au personnage ou à l'un des personnages d'une parabole que l'on entend, que l'on lit. De quel des deux fils êtes-vous dans cette parabole ? Revenons à notre texte de Jacques. Excusez-moi la grande parenthèse, mais j'espère que ça aura un peu rééquilibré les choses. Je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en disant « le seul problème, c'est les gens qui ont des thunes ». Ça serait bien pour nous, mais ça n'est malheureusement pas le cas. Donc la charge contre les riches est dure et peut sembler sans aucune nuance. Mais elle est néanmoins le reflet d'une époque. Alors oserais-je dire de toutes les époques. Car ne nous leurrons pas, notre monde est lui aussi divisé de plus en plus entre les très riches et les très pauvres, et ça ne va pas s'arranger. Avec toutes les injustices que cela génère et que Dieu condamne au travers de sa parole encore et encore. Ce que j'ai simplement et très sommairement voulu vous faire comprendre, en tout cas j'ai essayé d'ouvrir le débat, c'est que même si l'on supprimait les riches, étant donné l'état de péché de ceux qui ne le sont pas et qui dès lors peuvent agir de la même façon à leur niveau, on n'aurait encore rien réglé. On peut être pauvre et avoir un, par définition, avoir un très mauvais rapport à l'argent. On peut être pauvre et voler, dire « moi je fraude puisque les riches le font ». Ah ouais ? J'entends, combien de fois vous avez entendu ça vous ? Oh, les gros le font, pourquoi je ne le ferais pas ? Supprimez les riches, vous aurez toujours des solides problèmes. Donc l'attitude des nantis était un problème dans la société de l'époque de Jacques, tout comme dans l'Église auquel il s'adresse, parce qu'il s'adresse à des riches chrétiens. Mais ne perdons pas de vue les autres types de comportements qui sont en train de scier la branche sur laquelle repose la sécurité sociale dans notre pays et l'aide aux plus démunis. Ça va se casser la figure, je ne le souhaite vraiment pas, mais ça finira comme ça. Verset 1 de notre passage dans Jacques. « À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Alors là, quand on lit ça, on se dit « ils devraient gémir et pleurer à cause des malheurs. » Mais ils n'ont pas de malheurs, ils ont toutes les thunes qu'ils veulent, ils peuvent tous payer, tous acheter. Ils ont la belle vie. Pourquoi est-ce qu'ils devraient pleurer et gémir? Ça n'a pas de sens. Sauf si l'on comprend pourquoi, malgré ses richesses, un riche doit pleurer et gémir, ou en tout cas s'attendre à beaucoup pleurer et à beaucoup gémir. Les riches doivent porter le deuil, dit Jacques, parce que ce sont gémir et pleurer, ce sont des symptômes du deuil. Les riches doivent porter le deuil, dit Jacques, à cause des malheurs qu'ils attirent sur eux, à cause de leur attitude. Ils vont bientôt rencontrer Dieu, dit Jacques. C'est ça qu'il dit. Profitez, parce que très vite, tôt ou tard, vous allez vous retrouver face à face avec Dieu. Alors, on peut toujours se dire qu'ils auront bien profité de la vie ici-bas. C'est vrai, mais qu'en sera-t-il de la suivante ? Repetite parenthèse, je connais, pas personnellement, mais des riches chrétiens qui ont un très bon rapport à la richesse et qui donnent énormément, qui font un bien fou autour d'eux, voilà, qui créent des sociétés, qui se versent un salaire vraiment... Parce qu'ils se versent un salaire mais très raisonnable et qu'il n'y a pas besoin d'un syndicat, qui font tout ce qu'il faut pour leurs emplois. Ça existe, hein. Mais mes amis, ça n'est vraiment pas la majorité. Hein. Et même des non-chrétiens qui le font, hein. Comme Buffett en Amérique, qui ça fait des années qu'il plaide pour qu'il soit taxé à 95%. Quoi. Prenez mon... Il dit, je pars sous le contrôle d'Isabelle parce que voilà, mais prenez-moi, quoi. Moi j'ai de trop, enfin, prenez-moi. Taxez-moi plus. C'est un riche, milliardaire. Je referme la parenthèse. Donc, quand sera-t-il de la suivante, de cette vie qui vient ? Une vie de richesse pendant une septantaine d'années, 80 ans, et une vie de pauvreté et de larmes pour éventuellement l'éternité. Et l'intensité du remords sera proportionnelle à leur prise de conscience, puisqu'ils seront face à face avec Dieu. Ils ne prennent pas conscience, ils sont conscients de rien. Ils seront face à face dans la présence même de Dieu. Croyez-moi, là, ils vont bien comprendre. Parce qu'il n'y aura plus de parenthèse, plus de paravent entre eux et Dieu. Plus de paravent envers leurs péchés et leurs agissements passés. Ils vont savoir au plus profond de leur âme et de leur cœur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Ça va être valable pour nous tous aussi, hein, entre parenthèses. Oui, l'intensité de leur remords sera proportionnelle à leur prise de conscience, puisqu'ils seront face à Dieu. Et ce remords sera dès lors, vous en doutez, terrible, et la repentance douloureuse. Ça va faire très mal. La honte et les remords les habiteront alors. Ils verront qu'ils ont été des intendants infidèles. Ils se lamenteront sur les occasions qu'ils ont manqué de faire le bien avec les richesses que Dieu leur avait données. Ils pleureront sur leur convoitise et leur égoïsme. Ils comprendront qu'ils ont été de mauvais employeurs, qu'ils ont exploité, c'est ce que Jacques dit, leurs ouvriers. À l'époque de l'Antiquité, je vais dire quelque chose de terrible, mais les historiens vont plutôt dans ce sens-là. Il valait mieux être esclave parfois qu'ouvrier. Les esclaves, ils avaient à manger tous les jours. Alors parfois, c'était terrible, hein, soyons clairs. Hein. On les tuait comme on voulait, c'était une marchandise, ce n'était pas des êtres humains. C'était un statut, plus maintenant en Europe pour les animaux, maintenant le statut a changé, ce sont des êtres sensibles. À l'époque, un bœuf avait plus de valeur qu'un esclave. Mais la condition des ouvriers est encore bien pire, souvent. Ils devaient trouver du travail tous les jours. Et ils étaient souvent sous-payés, maltraités aussi. Ils vont donc regretter ça, ce jour-là, les riches, de ne pas avoir bien traité leurs employés. Leurs yeux s'ouvriront sur le péché qui consiste à chercher la sécurité dans les choses matérielles plutôt que dans le Seigneur. Et ils verseront des larmes pour s'être complus en eux-mêmes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit qu'effectivement, il y aura de quoi pleurer et gémir. Alors, Jacques va continuer en précisant davantage. Il va énumérer les quatre péchés fondamentaux des riches. Alors, on ne va pas tous les faire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous aurons deux messages. Le premier de ces péchés est celui d'amasser des richesses. On thésaurise, on accumule. Votre richesse, dit-il, sera depuis longtemps tombée en pourriture, dit Jacques. Ce terme était intéressant. Vos vêtements seront rongés par les mites. Votre or et votre argent seront corrodés. Cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre être comme un feu. Alors pourquoi cette corrosion des métaux précieux est-elle un problème? Je rouille, ce n'est pas une bonne traduction. Hein. L'or et l'argent ne rouillent pas, mais ils corrodent avec le temps. Eh bien, cette corrosion témoigne justement d'une avidité dépassant toute mesure. On en tasse encore et encore, alors qu'on n'aura jamais l'occasion en une vie de tout dépenser pour soi-même ou pour les autres. On en tasse, on en tasse, on en tasse. Et on n'en fait rien. On n'en fait pas ce qu'on devrait en faire. Alors, soyons clairs, je le rappelle, hein, la Bible ne dit jamais qu'être riche est un péché. Hein. Le simple fait d'être riche pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est qu'est-ce que tu fais de tes richesses? C'est toujours la même chose. Une personne peut par exemple hériter d'une fortune. Elle n'a pas exploité qui que ce soit pour l'avoir, elle en a hérité. Du jour au lendemain, et elle devient riche, sans commettre, entre guillemets, certains des péchés qu'énumère Jacques, qui sont relatifs à la façon dont on s'enrichit. Reste pour ce nouveau riche le danger, on y retourne, de l'oisiveté et d'autres tares qui peuvent se développer dans la vie de cet héritier dont Jacques parle dans notre passage. Donc la Bible ne dit jamais qu'être riche est un péché, par contre elle enseigne nettement qu'il est mauvais d'amasser et de thésauriser. Le Seigneur Jésus dit et interdit expressément d'amasser des biens. Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est clair, hein? Vous aurez remarqué que Jacques envisage les richesses sous quatre formes. Donc les richesses, les métaux précieux, l'argent, l'or, les vêtements, et l'or et l'argent, ça j'ai déjà dit. Donc à l'époque de la Bible, parce que ça peut surprendre, hein, la richesse, une partie des richesses, se présentait généralement sous la forme de céréales, d'huile et d'autres produits tels que vêtements et métaux précieux. Donc lorsque Jacques dit vos richesses sont pourries, il indique sans doute que les grains, si vous amassez du blé et que vous ne le consommez pas, amassez-le. Mettez les sacs, Après un certain temps, il va se passer quoi? Il va être rongé par la vermine, par les vers, par les rats. Et quant à lui, il va devenir rance. Elle pourrira sur pied, mais ce sera du gaspillage. Vous n'en ferez rien de valable. Le fait est que ces choses avaient été si longuement stockées, amassées, qu'elles en étaient devenues pourries, corrompues, non consommables. C'est assez intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui encore, on a osé, j'ose le terme, on a osé mettre le blé et les denrées alimentaires de base en bourse. Et il se passe quoi? On spécule sur les denrées de base et on provoque des famines artificielles. Et il y a des hangars dans certains pays vraiment malheureux où des spéculateurs stockent des denrées, des kilos et des kilos de denrées alimentaires pour provoquer artificiellement des famines, pour faire monter le cours du blé et du grain, etc. Et s'enrichir, alors que des milliers et des milliers de malheureux meurent de faim. Ça n'a pas changé. Donc toutes ces denrées périssables, employées à temps, auraient pu servir à nourrir les affamés, les pauvres, alors qu'à présent, elles étaient inutiles et tout juste bonnes à être jetées et détruites. Jacques dit aussi que vos vêtements, les vêtements des riches seront rongés, pas les vôtres, rassurez-vous, quoique, par les mythes. Moi, je déteste les mythes. Hein. J'ai parfois des trous dans des trucs que j'aime bien à cause des mythes. Alors, ça n'arrive pas aux habits qui sont utilisés de façon régulière. Vraiment. Mais quand l'armoire est tellement remplie de vêtements qu'ils sont très rarement utilisés, ils sont mis à mal. Par les mythes. Vous stockez des vêtements trop longtemps dans un endroit, vous aurez des mythes et vous aurez des trous dans vos vêtements. Donc, aux yeux de Jacques, il est moralement mauvais d'amasser des vêtements et de cette façon, lorsque tant de personnes sur Terre en sont tellement démunies. Il continue, votre or et votre argent sont rouillés, corrodés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Alors je l'ai dit, l'or et l'argent ne rouillent pas, mais ils ternissent, perdent leur éclat, et dans de mauvaises conditions de stockage, on peut même constater, je l'ai dit, qu'ils se corrodent. Et là, ils perdent encore plus de leur valeur. Donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. Pourtant, c'est ce que les riches font. Préfèrent voir pourrir leurs possessions que de les partager. Au lieu d'employer leur argent pour le faire travailler, nourrir les affamés, vêtir les misérables, ce pourquoi Dieu a permis que les richesses existent, fournir des médicaments aux malades et accessoirement propager l'évangile, parce qu'en faisant ça, un riche chrétien propagerait l'évangile sans même ouvrir la bouche, les riches épargnaient pour les mauvais jours, j'entasse pour les mauvais jours, qui ne venaient évidemment jamais. Mais pour les pauvres, tous les jours étaient des mauvais jours. Personne n'en avait profité de ces richesses et finalement, tout s'était détérioré. Et c'est pour ça que Jacques dit que le symbole même de toutes ces richesses, l'or et l'argent, ce qui avait le plus de valeur à l'époque et ce qui a encore le plus de valeur de nos jours, ben c'est la corrosion, la décoration de ces valeurs ultimes de la richesse humaine qui sera l'acte d'accusation contre les riches. Il suffira que le Christ montre une pièce en argent corrodée à un riche devant lui pour dire, voilà, ça crie à moi ça. C'est le symbole de ta vie, ça. Amasser des biens matériels, lapsus révélateur, quand ils auraient pu être utilisés pour le salut des corps et des âmes. Même si nous ne sommes pas des super riches, nous sommes bien d'accord, et on va le devenir de moins en moins si on l'est un petit peu, mais on doit entendre ce que Jacques dit ici aussi, chacun, je pense. Lorsque les yeux des riches ouvriront, parce que ça arrivera un jour, et qu'ils verront la cruauté de leur égoïsme et leur cupidité en pleine lumière, l'expérience sera terrible. Rappelez-vous comment il a envoyé ses disciples, sans rien du tout. Je crois qu'un riche qui comprend à la lumière du Christ son problème vis-à-vis de la richesse et qui s'en libère parce qu'il vient au Christ, ça m'a jamais arrivé forcément. Mais si j'ai des freins, je balance tout ça. On est tous à place délestée de ce qui nous fait du mal et de ce qui est un péché aux yeux de Dieu, progressivement. Le premier truc que le riche va se délester, c'est ça. Rappelez-vous le jeune homme riche, hein? Pourquoi Jésus dit « Va et vends tout tes biens et donne-les aux pauvres » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit parce que ça t'entrave, ça. Tant que tu auras cette richesse sur ton dos, ça ne va pas aller. Ça n'ira pas. Parce que c'est ton Dieu. Le problème des riches à l'époque de Jacques et à notre époque, et c'est ce qu'il y a de plus terrible sans doute, c'est que ces gens ne se posent pas de questions. Où ça s'arrêterait, où ils donneraient, où ils seraient généreux. Ils ne voient pas leur attitude, leur égoïsme et surtout leur addiction à l'argent comme un problème et encore moins comme un péché. Mais qu'arrivera-t-il quand, dans la pleine présence de Dieu, ils seront mis à nu, dépourvus des atours que leur procurait leur richesse? Les tuniques de peau que Dieu nous a façonnées, vous rappelez, dans le jardin d'Éden à l'aube de l'humanité, peuvent avoir pris, depuis l'époque, l'aspect de bien des idoles aujourd'hui. Ces tuniques de peau peuvent représenter bien des dépendances et bien des blessures. Mais une chose est sûre, c'est que notre Père nous a donné son Fils pour que nous changions de tailleur, si je puis dire, et que nous revêtions nos belles tuniques blanches de fin lin, qui reviennent souvent dans les livres des prophètes. Ce vêtement, qui était le vêtement traditionnel des prêtres que nous sommes, c'est ce vêtement-là qu'on doit porter. Si on doit être revêtu d'une richesse éventuelle devant Dieu, c'est de cette richesse-là. C'est de ce vêtement-là qui est spirituel. Le seul vêtement qui sied à des prêtres de la Nouvelle Alliance, qu'il soit riche ou qu'il ne le soit pas. Que le Seigneur bénisse sa parole.